France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano, Sacha Mattei et Antoinette Benoît, réalisé par Vivian Lecuivre. À la technique ce matin, c'est Dalia. Après les menaces par Donald Trump d'annexion du canal du Panama, les Caraïbes se sentent à nouveau dans le viseur états-unien. Nous consacrons la semaine à cette région dans l'ombre des États-Unis. Demain, l'embargo sur Cuba, pas près de se terminer. Mercredi, Haïti et sa dépendance mortelle. Jeudi, la Colombie qui n'est plus l'allié indéfectible de Washington. Aujourd'hui, pour l'État de Panama, les voies étroites de l'émancipation.
Le Panama n'a pas tenu ses promesses, le traité a été violé, les navires américains sont surtaxés et c'est la Chine qui exploite le canal. Nous l'avons donné au Panama, pas à la Chine, et nous allons le reprendre.
Nous rejetons en intégralité tout ce qu'a dit M. Trump. D'abord parce que c'est faux, et ensuite parce que le canal de Panama appartient au Panama et continuera d'appartenir au Panama. Le canal de Panama n'a pas été une concession ou un cadeau des États-Unis.
C'est notre message au président Trump. Ayez un peu de respect, respectez la souveraineté du Panama. Le canal appartient au Panama et nous ne le vendrons pas. Il continuera d'être un canal panaméen au service du monde, y compris des États-Unis, mais c'est la propriété du Panama et des Panaméens.
C'est un canal qui a nécessité des années de travaux, d'abord sous l'impulsion d'un entrepreneur français, Ferdinand de Lesseps, avec des ouvriers venus du monde entier, parmi lesquels de nombreux Martiniquais et Guadeloupéens. Le peintre Paul Gauguin en était aussi embauché comme terrassier. En 1887, il écrivait à sa femme « Je dois creuser de 5h30 du matin à 6h du soir ». Après de nombreuses déconvenues, des centaines d'ouvriers morts de maladies ou de glissements de terrain sur le chantier, celui-ci est repris par les États-Unis, qui à leur tour se lancent dans la réalisation de ce vieux rêve de Magellan, créer un passage maritime entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique et éviter ainsi de contourner tout le sud du continent américain par le Cap Horn. Si les États-Unis ont inauguré cet isthme de 80 km en 1914 et l'ont administré pendant plus de 80 ans, il a été formellement cédé en 1999 au Panama, lequel est bien un État souverain, même si on en a peu d'images en tête. 4,5 millions d'habitants, un nouveau président élu l'année dernière, José Raúl Mulino. Celui-ci a très vivement réagi suite aux menaces de Donald Trump de reprendre le canal, to take it back, on l'a entendu, au prétexte, disait-il, que les navires états-uniens paieraient un droit de passage beaucoup plus élevé que les autres et qu'ils seraient aujourd'hui contrôlés par la Chine. Il est vrai bien installé dans ce petit pays d'Amérique centrale. Alors quel écho trouve cette passe d'armes dans la société panaméenne? Comment cette offensive diplomatique de Washington contraint le pays à reconfigurer sa politique extérieure. Nous en parlons ce matin avec nos deux invités. Bonjour Kevin Partenay.
Bonjour Julie Gacon.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur des universités à Tours et membre de l'Institut universitaire de France. Il est par ailleurs 5h du matin à Panama City où vous êtes, Claire Nevache. Bonjour.
Bonjour
et
Julie Gacon.
Bienvenue à vous. Vous êtes doctorante en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, chercheuse associée au CIEPS, qui est le Centre international d'études politiques et sociales de Panama. On va profiter du fait que vous êtes sur place à Panama City, Claire Nevache, pour vous poser cette première question très simple. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette ville qu'on a du mal à se représenter, et est-ce que c'est là que commence le canal du Panama, l'embouchure du canal? Est-ce qu'elle est tout près de vous?
Oui, bien sûr. Alors, la ville de Panama, c'est une ville qui fait à peu près 1,5 million d'habitants, mais qui est une ville à la fois, très très étendue. parce qu'elle a eu des contraintes justement historiques très importantes dans son, on va dire dans sa configuration géographique, parce qu'elle était contrainte par la zone du canal de Panama qui jusqu'en 1999, hein, progressivement après les traités de 77 ont été progressivement récupérés par l'État de Panama, mais qui ont imprimé une marque assez forte sur la ville. Et qui du coup reste une ville très très contrastée entre le front de mer avec des immeubles de plus de 50 étages vraiment qui montrent la prospérité de ce pays qui est celui au PIB par habitant le plus important d'Amérique latine et à la fois des zones qui sont celles qui étaient autrefois les zones de la zone du canal et qui ont donc du coup une architecture très différente et héritée des bases militaires nord-américaines et puis des zones beaucoup beaucoup plus modestes dans un pays qui reste encore un des 10 pays les plus inégaux du monde, donc avec encore beaucoup d'endroits qui ressemblent à des bidonvilles dans la ville. Donc c'est un peu ça la ville de Panama City, c'est une ville extrêmement contrastée et où l'histoire se fait beaucoup sentir.
Avec de grandes inégalités, disiez-vous, dans un pays dont le PIB est le plus important d'Amérique centrale, le canal de Panama n'y est pas pour rien. Il rapporte 2,5 milliards de dollars par an, représente à peu près 7% de ce PIB. Ce canal sur lequel Donald Trump a menacé de reprendre le contrôle, ce qui nécessite, Kevin Partenay, un rapide détour par l'histoire. Claire Nevache citait un traité de 77. Il y a plusieurs traités entre les États-Unis et Panama qui émaillent l'histoire de ce canal. Le traité de 1903, d'abord, qui parlait d'un contrôle total et perpétuel des États-Unis sur ce canal. Alors bonjour, après, quand le mot perpétuel est écrit dans un traité pour ensuite en céder la souveraineté, c'est ce qui a été fait en 1999. Quelle sorte de contrôle, entre-temps, ont exercé les États-Unis sur ce canal ? De quel droit disposaient-ils ?
Alors, dans un premier temps, c'était un contrôle souverain, puisque pendant très longtemps, les États-Unis ont eu véritablement possession du canal. Donc, ils en avaient le plein usage, ils avaient le contrôle souverain du territoire du canal, en tout cas l'entièreté de ce bras géographique qui permet de relier les deux océans. Et c'est vrai qu'effectivement, ce traité donnait plutôt la possibilité aux États-Unis, donc, de contrôler militairement, d'être présent sur cet espace-là, et puis d'avoir, on va dire, un regard plein et entier sur l'intégralité des opérations commerciales et puis maritimes qui s'y déroulent. Alors ça, c'est la base, effectivement, c'est vraiment le début de l'histoire, 1903, où les États-Unis contribue d'une certaine façon quand même à l'indépendance de Panama, qui se détache de la Colombie, ça c'est quand même une étape importante à rappeler, et puis l'usage du canal qui va, comme vous l'avez expliqué, se dérouler jusqu'en 1977, au moment où les deux présidents, donc Carter et puis le président panaméen qui s'appelle Torrijos à cette époque-là, vont se mettre d'accord pour que le canal soit dévolu. Ce qui est très intéressant malgré tout, c'est qu'au-delà de cette idée de rendre le canal à Panama, il y a toujours quand même un autre traité qui est en vigueur et qui stipule que les États-Unis peuvent intervenir si le canal fait l'objet de menaces ou est sous l'emprise de conflits particuliers. Donc, l'idée de rendre souveraineté du canal à Panama, les États-Unis restent toujours quand même un petit peu dans l'ombre. Et s'il y a le moindre problème avec ce point stratégique pour eux, parce que sur le plan économique, c'est stratégique, ils peuvent intervenir militairement pour sécuriser la zone. Donc c'est vraiment un espace qui est très ambigu du point de vue de la souveraineté.
Ce traité Torrijos-Carter signé en 1979, qui était une première pierre posée sur le long chemin de la cession du canal de Panama au Panama et non plus sous souveraineté états-unienne, ce traité stipulait que le canal devait rester sûr et ouvert au transit pacifique des navires de toutes les nations sur un pied d'égalité, de sorte qu'il n'y ait aucune discrimination à l'égard d'une nation. C'est le texte tel qu'il est et dont Donald Trump dit aujourd'hui qu'il n'est plus respecté par le Panama en disant être persuadé, ou alors il fait semblant de ce que les États-Unis se font avoir par le Panama, que le droit de passage à payer est plus élevé pour les navires états-uniens que pour tout autre navire de marchandises, ce que démentent les employés de l'autorité du canal.
On a besoin du nom du bateau et de son identification. Ensuite, le prix va dépendre du tonnage, de la longueur et de la largeur du bateau. Peu importe que le cargo vienne de Colombie, de Chine ou des États-Unis, la nationalité n'est même pas une information que l'on peut entrer dans le système.
Donc quand Donald Trump dit que les Américains payent plus cher, c'est faux ?
Oui, ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas possible ?
C'est impossible.
Alors si les États-Unis ne peuvent pas payer plus que les autres navires, comme dit cet employé de l'autorité du canal à une équipe de France Télévisions, ce sont les États-Unis qui payent le plus parce que ce sont les navires états-uniens qui sont les plus présents dans le canal Kevin Partenay. Il y a une ambiguïté sur laquelle Donald Trump joue volontairement.
Oui, tout à fait. C'est vraiment ça qui est utilisé. Ce sont les chiffres qui sont utilisés. Comme le son que vous avez diffusé le montre, je veux dire, tout le monde paye exactement la même chose. Et la seule variable des prix, c'est ce que le bateau qui passe transporte. Mais effectivement, là où Donald Trump a raison, c'est qu'effectivement, ce sont les États-Unis qui payent le plus parce que ce sont eux qui l'utilisent le plus. Faut rappeler quand même que 74% de toutes les marchandises qui passent par le canal proviennent des États-Unis, ou on va dire plus généralement l'Amérique du Nord. Donc c'est Canada, États-Unis, mais essentiellement les États-Unis, et c'est pour cette raison-là que sont effectivement les États-Unis qui payent le plus. Le deuxième État qui arrive donc après les États-Unis, c'est la Chine qui fait passer à peu près 21% des marchandises sur le canal. Donc voilà, la logique de prix s'applique parce que c'est une logique qui est décidée par l'autorité du canal de Panama, qui est une autorité publique mais indépendante, qui va collégialement fixer des prix chaque année sur le tonnage, justement, à quel tarif est appliqué au tonnage. Et donc voilà, il y a aucune ambiguïté sur le fait que les États-Unis ne payent pas plus, mais effectivement, c'est eux qui payent le plus par l'usage qu'ils en ont.
Il y a une quarantaine de navires en moyenne qui passent, qui transitent chaque jour par le canal de Panama, qui payent à peu près 100 000 euros par navire, même si ça dépend, vous le disiez, du poids de la cargaison, mais les prix sont fixés en concertation avec les clients. Chaque année, le comité consultatif composé des grands armateurs, des entreprises internationales notamment, se réunissent pour fixer les prix, d'où la réaction très vive du Panama de dire mais c'est faux, nous ne pouvons pas appliquer aux navires états-uniens des prix plus élevés qu'aux autres. Quelques jours après cette sortie de Donald Trump, Kevin Partenay, encore pour rester sur cette dernière séquence d'actualité, son secrétaire d'État Marc Rubio a accordé au Panama sa toute première visite officielle dans le but affiché de calmer le jeu, de rassurer les Panaméens. Visite au cours de laquelle il a affirmé sans faillir que l'État panaméen avait accepté d'exempter les navires états-uniens de taxes. C'est une affirmation qui a été démentie aussitôt par le président du Panama. Alors à quoi joue le gouvernement de Donald Trump avec le Panama ?
Il joue au jeu de Trump, c'est-à-dire que c'est du bluff permanent pour essayer d'obtenir des contreparties, c'est-à-dire mettre le foyer de l'attention sur un sujet pour essayer de gagner quelque chose ailleurs. Et je crois qu'à ce petit jeu, ils ont malgré tout plutôt gagné, puisque effectivement Marco Rubio est venu, vous le disiez, cette première visite donc du secrétaire d'État, ce qui est symboliquement fort. Il y a une attention qui était donnée au pays pour essayer de calmer le jeu. Il a d'ailleurs rappelé, après les déclarations de Donald Trump, il a rappelé au président Moulineau que c'était pas du tout l'objectif, ils n'allaient pas reprendre le canal, que on n'en était pas du tout là. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'à la sortie de sa visite, le Panama est sorti des nouvelles routes de la soie, donc c'est ce fameux programme de coopération qui est impulsé par la Chine à l'échelle de la planète, qui est un grand réseau d'infrastructures. Et on voit bien là justement le résultat qui a été une victoire pour les États-Unis, puisque eux cherchaient surtout à faire en sorte que le Panama ne soit pas trop proche de la Chine, compte tenu de ces dernières années où il y avait eu effectivement un rapprochement significatif.
Donc le coup de poker pour obtenir un tarif préférentiel n'a pas marché pour le tarif préférentiel, mais a poussé le Panama à se délier de ses partenariats avec la Chine. On en parlera de ces partenariats qui ont été plus ou moins importants pour le développement du pays ces dernières années. Alors Claire Nevache, sur la visite de Marc Rubio, il se trouve que vous étiez à Panama City à ce moment-là, puisque vous êtes d'ailleurs toujours. Comment ont réagi les Panaméens ? Quand je dis les Panaméens, les Panaméennes sont les organisations de la société civile, les Panaméens dans les rues, la presse. Comment, quelle réaction a accueilli cet enchaînement de déclarations belliqueuses de la part de Donald Trump, puis ces mensonges de son secrétaire d'État ?
Oui, alors au tout début, il faut avoir en tête, je pense, une date importante, qui est celle des premières déclarations de Donald Trump sur le canal, qui ont lieu le 21 décembre. Et la date est importante parce que c'est le jour immédiatement après les commémorations des 35 ans du 20 décembre 1989, qui sont la dernière intervention militaire des États-Unis au Panama et d'ailleurs en Amérique latine, qui ont fait évidemment des centaines de morts qui ont signifié un bombardement dans la capitale et dans la deuxième ville du pays à l'époque pour empêcher le dictateur Noriega de continuer à diriger le pays. Donc évidemment, ça a été particulièrement choquant pour la société panaméenne, ce type de déclaration dans ce contexte-là et autour de ce jour-là, qui est un jour particulièrement douloureux pour l'opinion publique. La première réaction, ça a été un mélange de stupeur et d'incrédulité dans l'opinion publique, et aussi un peu l'idée que Trump étant Trump, ses sorties étant souvent un peu extravagantes ou pas forcément suivies des faits, il fallait pas forcément prêter beaucoup d'attention à ce qu'il disait. D'autant plus que Donald Trump, dans sa première présidence, avait déjà dit que il considérait que le canal de Panama n'aurait jamais dû être rétrocédé au Panama. C'est un peu un leitmotiv de la politique étrangère républicaine, de considérer qu'il s'est agi d'une faiblesse du président Carter de rendre le canal de Panama au Panama et que ça n'aurait jamais dû avoir lieu. Évidemment, aucun président républicain n'avait osé aller aussi loin dans cette rhétorique. Et malgré tout, malgré cette stupeur et cette incrédulité du début, le fait que Donald Trump, dans son discours de prise de possession, ait prononcé 6 fois le nom du pays, et que la première visite de Marco Rubio, effectivement, ait été dédiée au Panama, a fait monter d'un cran la tension dans toute la société. D'autant plus que l'impression générale dans l'opinion publique, encore une fois, c'est que cette conférence, cette réunion ne s'est pas très bien passée. D'ailleurs, cette réunion ne s'est pas finie comme elle s'est finie dans tout le reste des pays de la région, parce qu'après le Panama, Marco Rubio a visité le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala, la République dominicaine. Dans tous ces pays-là, la réunion s'est soldée par une conférence de presse commune, comme c'est souvent le cas dans les visites officielles. Ça n'a pas été le cas au Panama. Chacun des deux ont fait une conférence de presse à des moments différents et dans des endroits différents. Et un peu l'impression de tout le monde, c'est qu'ils n'avaient pas été dans la même réunion. Le gouvernement du Panama a dit que globalement, les choses s'étaient bien passées, avaient été cordiales, et a annoncé un certain nombre de mesures. Donc là, on a bien compris que si le gouvernement du Panama n'était pas prêt à céder, ni à négocier le canal, ni la souveraineté du canal en aucun cas, ils étaient, du fait de la pression, prêts à négocier un certain nombre d'autres choses. En réalité, les États-Unis, le gouvernement des États-Unis a obtenu beaucoup de choses pendant cette réunion. Ils ont obtenu, entre autres, vous l'avez dit, la sortie de la route de la soie par le Panama, c'est-à-dire en réalité un arrêt des investissements de la part de la Chine.
Oui, on y reviendra.
Aussi
si vous voulez
d'autres
bien.
Choses, comme par exemple l'ouverture ou plus exactement la cession d'une piste aérienne pour les États-Unis dans la région du Darién, donc dans la région qui est à la frontière avec la Colombie. Et cette piste aérienne est destinée à recevoir des migrants qui étaient aux États-Unis et qui sont expulsés des États-Unis et qui sont de nationalité qui souvent ne reçoivent pas les migrants expulsés des États-Unis, donc notamment des pays asiatiques. Donc en réalité, sans en dire le nom, le pays se transforme de fait en un pays tiers pour la politique migratoire des États-Unis, et cette politique a déjà commencé. On a déjà commencé à recevoir au Panama les premiers avions avec plus d'une centaine de migrants asiatiques qui ont été qui ont été expulsés donc au Panama, donc dans un pays qui n'est pas le pays de leur nationalité, et dont il est assez peu clair de ce qui va arriver par la suite, et si le Panama va devoir gérer ces personnes qui vont être expulsées depuis les États-Unis, ou s'ils vont pouvoir progressivement les rapatrier vers leur pays, c'est pour l'instant assez peu clair.
Donc ces rapatriements-là, pardon, Claire Nevache, ces rapatriements-là, en effet, ont été acceptés par le Panama en vertu d'un accord signé avec les États-Unis le 1er juillet dernier, donc sous Joe Biden. Ça ne date pas de Donald Trump, mais en effet, là-dessus, le président Mulino, le président du Panama, donne beaucoup de gages de bonne volonté aux États-Unis, endosse ce rôle de bon élève d'Amérique centrale en matière de sous-traitance des politiques migratoires, ce qui est lui par ailleurs reproché par d'autres chefs d'État d'Amérique centrale. En tout cas, lors de la visite de Marco Rubio, des déclarations de Donald Trump, des manifestations ont éclaté dans tout le Panama pour montrer un attachement à ce canal dont le président Jimmy Carter saluait en 1977 un accord avec le Panama pour préparer sa cession.
Le peuple américain s'est montré assez grand, assez fort, assez courageux et assez compréhensif pour être fier de ce qui vient d'être accompli. Je crois que ce traité peut ouvrir une nouvelle ère de tolérance, de compréhension, d'amitié et de respect mutuel, non seulement dans cet hémisphère, mais aussi à travers le monde entier. Il n'est pas aisé d'accepter le changement d'une situation qui nous était aussi favorable, mais elle est désormais bénéfique à nos deux pays.
Autre époque que celle de Jimmy Carter dans les années 70, Kevin Partenay, on était là dans une démarche de bonne volonté, de dire au Panama, vous avez le droit de bénéficier de ce canal et d'en retrouver la souveraineté. Bon, ça a mis du temps, hein, 99, c'est vraiment la date de cession. Est-ce qu'il faut lire les menaces de Donald Trump dans la droite ligne d'un héritage impérialiste particulièrement marqué en Amérique latine depuis la doctrine Monroe de 1823, selon laquelle l'Amérique centrale devait être sous le contrôle états-unien, et doctrine à laquelle Jimmy Carter aurait fait une incise, en tout cas c'était une sorte de parenthèse, mais est-ce que Donald Trump lui se réinscrit dans cette doctrine-là ?
Oui, je crois que la philosophie en tout cas engagée est relativement proche. Et d'ailleurs, le président Trump s'y est référé à plusieurs reprises dans le cadre de ses discours. Dans son premier mandat, depuis qu'il est réentré en fonction, il s'est à plusieurs reprises référé donc à cette doctrine Monroe. Et on est tout à fait dans la perspective d'une affirmation, d'une réaffirmation des États-Unis dans la zone hémisphérique, qui répond à mon avis à plusieurs aspects. C'est-à-dire que pendant les administrations démocrates, et on remonte jusqu'à Barack Obama, on avait eu une certaine distanciation des États-Unis vis-à-vis du continent, parce qu'il y avait d'autres foyers d'attention hein, internationaux, les États-Unis se projetaient ailleurs. Et là, ce que l'on observe, c'est qu'avec Trump, il y a véritablement un retour, une recentralisation de la préoccupation sur l'Amérique, au sens large du terme. Donc, on a cet aspect-là. Et puis, on a la dimension ou l'idée que les États-Unis doivent à nouveau, et ça, c'est pas tant la doctrine Monroe que la doctrine Roosevelt de 1904.
Theodore Roosevelt, pas Franklin.
Exactement. Oui, voilà, c'est ça. C'est très précision. 1904, qui disait que les États-Unis devaient être le gendarme. Devait se faire le gendarme du continent. Donc évidemment, à cette époque-là, c'était plutôt contre les nations européennes, où le message était, bon, surtout vous approchez pas de la zone, ici c'est chez nous. Donc c'est toute l'idée du précaré, qui s'est par ailleurs beaucoup installée pour l'Amérique centrale. Et on est un peu dans cette rhétorique-là, en tout cas dans cette posture qui dit, voilà, les États-Unis vont veiller à leurs propres intérêts, et pour ça, il faut sécuriser la zone, et ici, on va essayer de mettre un peu d'ordre. On est vraiment dans cette rhétorique trumpienne. Oui, effectivement, il y a une mobilisation de toutes les ressources discursives et même les philosophies qu'il y avait derrière les doctrines.
Notamment celle de la destinée manifeste, cette idée selon laquelle les États-Unis sont missionnés par Dieu pour conquérir, alors au départ c'est l'Ouest américain et par extension les territoires voisins, nous poursuivrons notre destinée manifeste jusque dans les étoiles, a dit par exemple Donald Trump. Et puisque vous citiez Theodore Roosevelt, Kevin Partenay, c'est quand même lui qui a soutenu en 1903 l'indépendance du Panama, indépendance de la tutelle, vous le rappeliez au début de l'émission. domination qu'exerçait jusque-là la Colombie. Alors comment lire aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, ce geste qui avait été fait par Roosevelt de soutenir cette indépendance, alors que finalement on comprend que c'était aussi dans l'intérêt bien compris des États-Unis.
L'indépendance, elle était très largement orientée par les intérêts stratégiques des États-Unis. Les choses, elles sont relativement claires dans la mesure où on est vraiment dans une période où les États-Unis se réengagent dans le projet de construction du canal. Historiquement, il faut peut-être rappeler qu'à l'origine, c'est la France qui avait commencé à construire le canal, Ferdinand de Lesseps. Puis, suite à une faillite bancaire, finalement, c'est les États-Unis donc, qui se réengagent dans ce projet-là et qui voient tout de suite l'intérêt géostratégique de l'utilisation d'une voie comme ça qui permet de relier les deux océans. Donc, pour essayer justement d'avoir une emprise un peu plus importante, il était beaucoup plus simple d'avoir un petit pays nouvellement indépendant pour lequel on pouvait orienter en tout cas les intérêts et puis appuyer le développement institutionnel économique qu'un autre pays peut-être plus grand dont l'indépendance est plus ancienne, la Colombie en l'occurrence. Et puis l'indépendance, elle a été très facile puisque les historiens l'ont fréquemment rappelé, la possibilité de déclarer une indépendance comme ça très rapide venait du fait que la Colombie par la géographie, par l'Amazonie qu'il fallait traverser, donc notamment cette zone du Darién, n'avait pas la possibilité de mobiliser des soldats pour pouvoir lutter contre justement ces velléités indépendantistes. Donc tout s'est fait de manière très rapide. Et puis voilà, l'histoire a repris le cours en plutôt des intérêts américains dans un premier temps.
Claire Nevache, est-ce qu'il y a aujourd'hui au Panama un reliquat d'anti-impérialisme états-unien du fait d'avoir été longtemps tenu à l'écart des ressources générées par le canal, mais aussi pour les raisons que vous rappeliez tout à l'heure, 1989, l'intervention militaire américaine qui a abouti à la chute de Manuel Noriega et dont vous disiez tout à l'heure qu'elle était célébrée, cette date-là. Est-ce qu'il y a un travail de mémoire qui est fait sur ces questions au Panama et une volonté aujourd'hui de relire l'histoire du côté panaméen et non plus états-unien ?
Alors, il y a un travail de mémoire qui est fait. Alors, sur le 20 décembre 1989, je dirais qu'il commence à être fait. C'est classique, on va dire, la période d'une génération pour que le travail de mémoire commence réellement à être fait parce que, on va dire, les faits les plus douloureux commencent à s'éloigner. L'autre date très importante dans le récit national, c'est le 9 janvier 1964, qui est une journée pendant laquelle des lycéens qui étaient dans un lycée qui se trouvait contre la limite entre Panama, la ville de Panama et la zone du canal, donc dans laquelle ils ne pouvaient pas rentrer, exigent, conformément aux accords qui existaient à l'époque entre le Panama et les États-Unis, que le drapeau panaméen soit hissé à côté du drapeau des États-Unis dans la zone du canal. Le gouverneur des États-Unis ne n'appliquait pas cet accord, et donc les lycéens rentrent dans la zone du canal et sont massacrés. Il y a plus de 20 morts du côté panaméen, et cette date reste très importante et reste commémorée de façon très très très régulière tous les ans. Donc sur la relation qu'entretiennent le Panama avec les États-Unis. Comme souvent dans ce type de relations entre deux pays et entre deux populations très très asymétriques, il y a une espèce d'ambivalence d'amour-haine dans l'opinion publique. C'est-à-dire que effectivement ces faits et ces moments marquants de l'histoire du pays restent très présents et restent douloureux.
Et célébrée. Alors vous le disiez, pardon Claire Nevache, cette date du 9 janvier 1964 est célébrée aujourd'hui, donc tous les 9 janvier on rappelle la mémoire de ces lycéens qui ont été tués par des GIs aux abords du canal, et depuis quelques mois ressort une archive qui a été longtemps classée et qui a été déclassée il n'y a pas longtemps. C'est un extrait de la conversation téléphonique entre à l'époque le président du Panama Roberto Francisco Chiari et le président états-unien Lyndon Johnson.
En 1961, yo estuve en Washington
Alors là, le président du Panama s'adresse à un traducteur en disant « Je voudrais que vous rappeliez au président Johnson que je vais à Washington depuis 61 pour discuter avec le président Kennedy et que pendant cette période, pratiquement rien n'a été fait pour résoudre cette situation qui se conclut aujourd'hui avec ce drame de 8-10 morts, plus de 200 blessés dans les hôpitaux. » C'est une archive qui circule. Pour quelle raison, Claire Nevache, dans le contexte actuel, est-ce qu'elle est accompagnée d'encouragement au président panaméen de faire la même chose que le président de l'époque, c'est-à-dire de tenir tête aux États-Unis?
Oui, bien sûr, elle circule dans l'idée de demander ou de faire pression sur le président du Panama pour avoir la même attitude de fermeté envers le gouvernement Trump qu'avait eu à l'époque le président Chiari, qui d'ailleurs, après cette conversation avec le président Johnson, avait rompu les relations internationales avec les États-Unis pour quelques mois, ce qui est un fait unique dans l'histoire du pays et qui montre bien à l'époque à quel point le gouvernement national avait été très ferme, et ça avait été un premier moment important dans les négociations qui ont ensuite suivi pour le traité de 1977. Donc effectivement, l'opinion publique d'une certaine façon attend du président la même fermeté. Malgré tout, je pense que c'est important de dire que l'opinion publique n'est pas faite d'une seule pièce,
d'une seule voix
sur ce sujet-là. Donc il y a effectivement eu, notamment la veille de la visite de Marco Rubio, des manifestations, notamment des étudiants de l'Université de Panama. Et à nouveau, cette semaine, il y a eu des manifestations très importantes, d'ailleurs qui ont été réprimées de façon assez fermes et qui ont été elles-mêmes assez violentes de la part du principal syndicat du pays. Donc effectivement, les choses sont, pour une partie de l'opinion publique, qui sont tout à fait indignantes, les personnes sont prêtes à descendre dans la rue, mais il faut dire que il y a une autre partie de la population qui est assez attentiste sur le sujet et qui considère en plus que dans un pays qui, comme je l'ai dit au début de l'émission, est extrêmement touché par les inégalités, c'est un des pays les plus inégaux du monde, en réalité les bénéfices du canal ont surtout servi à l'élite du pays pour continuer à s'enrichir, et les bénéfices du canal sont assez peu bénéficiés au reste de la population.
Et quand on regarde notamment, pardon Claire Nevache, le temps file, oui. Je suis vraiment désolée, quand on regarde les noms du conseil d'administration de l'autorité du canal, ce sont souvent les mêmes qui reviennent, c'est vous qui avez attiré notre attention là-dessus, ce sont des grandes familles du Panama qui sont par ailleurs pour beaucoup plongées dans des affaires de corruption, mais qu'à cela ne tienne, pour Donald Trump, qui a abrogé le 5 février dernier la loi anticorruption, le Panama est concerné, Kevin Partenay. Dans quelle mesure le Panama peut bénéficier de cette abrogation par Donald Trump de la loi anticorruption? Est-ce une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les autorités du Panama sont un petit peu marche sur des œufs quand il s'agit de s'adresser aux États-Unis?
Effectivement, comme le rappelait Claire Nevache, je crois qu'il y a une question liée aux intérêts économiques et commerciaux en jeu. Il y a une élite économique dans le pays qui est aussi très proche de l'élite économique d'autres pays centra-américains, dont les intérêts sont très liés avec les États-Unis. C'est une élite très cosmopolite qui fait fleurir le commerce d'un point de vue transnational, donc très liée notamment avec la Floride, avec le sud des États-Unis, et qui voit plutôt d'un bon œil en fait le fait de donner une très forte impulsion sur cette question du business, quoi. C'est la philosophie trumpienne qui a derrière évidemment tout ça. Donc, comme vous le dites, il marche effectivement sur des œufs. Il y a une partie de la population qui voit ça d'un très mauvais œil parce que c'est la souveraineté du Panama, c'est le canal, etc. Mais d'un autre côté, un certain nombre voient leur intérêt en jeu et essayent surtout de pas trop s'attirer les foudres de Donald Trump parce que c'est leurs intérêts après économiques qui en pâtiraient. Donc, il y a cet entre d'eux à trouver, qui est jamais évident, et qui se retrouvent bien, là, en tout cas, ce que vous mentionnez dans l'autorité du canal, le fait que les grandes familles s'y retrouvent et essayent, elles, de protéger aussi leurs intérêts.
Grande dépendance du Panama vis-à-vis des États-Unis aussi pour sa monnaie. Le Panama, la monnaie du Panama, c'est le dollar américain, la monnaie nationale, comme du reste le Salvador et l'Équateur, mais donc il n'a pas la main sur sa politique monétaire précisément. Donc voilà, les interdépendances sont très nombreuses, ou les dépendances tout court, d'où sans doute la position assez mesurée, malgré les mots et les déclarations fermes des autorités du Panama, puisqu'ils ont quand même décidé, le président du Panama a décidé de ne pas renouveler son partenariat avec la Chine, très certainement pour faire plaisir à Donald Trump. Et le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Lin Jian, l'a fortement déploré.
Ces dernières années, la Chine et le Panama ont noué des relations fructueuses dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Ce partenariat a bénéficié aux deux parties. Nous espérons que le Panama prendra la bonne décision pour privilégier l'équilibre de ses relations bilatérales, pour le bien de nos deux peuples et pour s'affranchir de toute ingérence étrangère.
Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet, Claire Nevache, du partenariat qui liait le Panama à la Chine, ou qui lie peut-être toujours, parce qu'au-delà des mots, sans doute des projets sont toujours en cours, peut-être des infrastructures en train d'être construites. Qu'est-ce qu'on en sait et comment est vécu au Panama, cette fois, le retrait du Panama de la Belt and Road Initiative, des nouvelles routes de la soie?
Oui, alors la relation du Panama avec la Chine, en tout cas la relation diplomatique, est assez récente. Elle date de 2017. Et à l'époque, dans le pays, ça avait vraiment été une vague d'euphorie et d'enthousiasme par rapport aux opportunités économiques qui étaient envisagées pour le Panama et pour les entreprises panaméennes avec la Chine. En réalité, alors il y a un certain nombre d'entreprises effectivement panaméennes qui en ont bénéficié, mais en réalité, évidemment, l'asymétrie entre les deux pays fait que il y a eu énormément d'investissements chinois dans le pays et dans la région, pas seulement dans le pays. Alors des investissements de toutes sortes et un certain nombre d'accords commerciaux sur notamment les bois précieux, sur notamment la pêche dans les zones du Panama. Et notamment, ce qui est assez important, c'est un certain nombre d'investissements stratégiques. Alors ces investissements, pour une part, étaient bien antérieurs à l'ouverture des relations diplomatiques. D'ailleurs, un certain nombre avaient eu lieu alors que le canal était encore sous contrôle nord-américain. Notamment la concession des ports, qui aujourd'hui est ce qui fait le plus débat. Il y a en tout 5 ports à l'entrée et à la sortie, ou aux 2 entrées du canal de Panama. Et les 2 ports principaux, du côté Pacifique et du côté Caraïbe, sont une concession à une entreprise qui s'appelle Hutchinson Seca, qui a plus de 50 ports dans le monde entier, et qui participe de cette vision stratégique de la Chine de mettre la main sur un certain nombre d'infrastructures stratégiques tout autour du monde, notamment sur un certain nombre de ports et sur un certain nombre de voies ferroviaires. Il y a d'ailleurs eu un projet qui est un peu une anguille de mer depuis plusieurs années, sur la possibilité d'ouvrir une voie de chemin de fer au Panama entre la ville de Panama et la troisième ville du pays. Donc ces ports sont toujours sous concession chinoise, même si un audit est en cours et on soupçonne que les États-Unis pourraient faire peser sur cet audit et pourraient surtout, à la faveur de l'élimination de la loi anticorruption aux États-Unis ou la suspension de la loi anticorruption aux États-Unis, en profiter pour faire entrer leurs propres entreprises dans ces investissements stratégiques et sur ce type de d'infrastructures, comme notamment les ports.
Alors, il se trouve que le Panama comptait aussi sur des investissements à la fois chinois et états-uniens pour résoudre les problèmes hydriques de plus en plus récurrents du canal de Panama. C'est une autre menace, sans doute plus inquiétante encore que les annonces de Donald Trump, les sécheresses répétées qui mettent en danger le fonctionnement des écluses du canal, avec des périodes sans pluie de plus en plus longues qui assèchent les 5 retenues d'eau, puisque le canal du Panama n'a rien à voir avec le canal de Suez. Il y a plein d'un système de lacs artificiels et d'écluses pour passer de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, et donc tous les problèmes de stress hydrique qui se posent en ce moment. Peut-être, Kevin Partenay, pour conclure cette première partie, comme vous connaissez très bien la région un peu au-delà du Panama, même au-delà du Panama, quel est aujourd'hui son degré d'intégration à la région latino-américaine? Si le Panama voulait se défaire vraiment de sa dépendance aux États-Unis, même diplomatiquement, politiquement, vers qui est-ce qu'il peut se tourner?
Alors c'est très difficile de couper les liens, c'est même presque impossible de couper les liens avec les États-Unis puisque ça reste quand même l'acteur, alors certes asymétrique, mais dont il y a une dépendance économique. Vous rappeliez la monnaie tout à l'heure, on rappelle les intérêts là du canal dont on a parlé depuis le début de l'émission. Couper les liens serait pas évidemment possible. En revanche, effectivement, on a un pays qui est très bien intégré, inséré économiquement à l'international, mais dans le continent par un élément d'attractivité dont on a peu parlé, mais parce que ce qu'il faut souligner, c'est que le canal représente, vous le disiez tout à l'heure, à peu près 7% du PIB. La grosse partie de l'économie panaméenne repose en revanche sur les services financiers qu'elle propose. Donc avec le ressort des lois d'attractivité bancaire, le fait de pouvoir offrir des pavillons à des navires. Donc ces services qui sont financiers et économiques fait que le Panama est très bien inséré dans l'économie continentale dans un sens large. En revanche, ce qui pose vraiment problème, c'est la question politique, les liens politiques qui vont pouvoir être noués avec d'autres pays. Et là, je crois que le lien avec les États-Unis existe, sera maintenu quoi qu'il arrive. Ne comptez que sur les États latino-américains, compte tenu des multiples facteurs de crise que connaissent beaucoup de pays aujourd'hui dans la région, instabilité économique, instabilité démocratique, fait que... Rentrer dans une coalition latino-américaine et chercher à ne s'appuyer que sur cela, ça serait extrêmement préjudiciable pour le pays.
Et les intérêts dans la région ne sont pas tous les mêmes. Le Panama, par exemple, n'a pas du tout les mêmes intérêts que le Nicaragua. Et il sera question dans cette série sur les Caraïbes. Et juste après cette chanson, il sera question du Nicaragua. Merci beaucoup, Kevin Partenay et Claire Nevache. Vous restez avec nous. Sofia Valdez et Dani Lux pour cette chanson Lento qui date de l'année dernière. Sofia Valdez est panaméenne et Dani Lux californien. Un exemple de collaboration panaméo-états-unienne réussie malgré les relations diplomatiques tendues entre les deux pays. C'est le premier épisode de notre série sur les Caraïbes dans l'ombre des États-Unis. Série qui nous conduit à présent au Nicaragua qui a fait le choix d'une politique beaucoup plus conflictuelle et joue la carte du chantage migratoire.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Sénégal, actualité mbeddi wo forum lo rek lañuy wax Nicaragua don won lo xamné dafa laqatu quoi.
Dans les rues du Sénégal, tout le monde parle du Nicaragua. Quand j'ai entendu ça, j'ai cherché sur les réseaux sociaux et petit à petit, j'ai trouvé comment me procurer un billet. Pour aller au Nicaragua en avion, j'ai fait une escale au Maroc, une en Espagne, une autre au Salvador. Et j'ai atterri au Nicaragua. Depuis le Nicaragua jusqu'aux États-Unis, j'étais clandestin.
Geva Ba, migrant sénégalais rencontré aux États-Unis par TV5 Monde. Comme des milliers d'autres, il a été accueilli dans un premier temps par le Nicaragua, qui accueille largement des ressortissants du monde entier, lesquels continuent ensuite la route vers les États-Unis. Donald Trump menace en réplique d'expulser 47 000 Nicaraguayens. Bonjour Gilles Bataillon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, directeur d'études à l'EHESS. D'abord, comment le président Ortega facilite la venue au Nicaragua de milliers de personnes venues du monde entier? D'ailleurs, est-ce vraiment du monde entier ou de quelques pays comme ici, le Sénégal?
C'est des pays avant tout de l'Afrique de l'Ouest. Et disons, le Managua avait un parc hôtelier, un certain nombre de choses qui fonctionnaient avec un tourisme des gens qui venaient, des Nicaraguayens qui venaient voir leur famille au pays. Et là, avec la dictature qui s'est instaurée depuis 2018, énormément de gens sont partis. Le tourisme est réduit à néant. Donc, il y a un parc hôtelier disponible à Managua et Ortega facilite la venue des migrants et c'est sa politique anti-Trump, puisque Trump, à partir de 2018, a gelé des avoirs de la famille Ortega et des proches qui étaient responsables de la répression de 2018, et c'était l'espèce de mesure de rétorsion d'Ortega contre Trump. Donc il y a des migrants qui sont là, et tout laisse à penser que les gens qui les acheminent vers l'Amérique du Nord sont de mèche avec le gouvernement nicaraguayen, puisqu'on sait que les réseaux de passeurs sont souvent liés aux réseaux de trafiquants de drogue, et la drogue passant par l'isthme centra-américain depuis la Colombie et le Venezuela vers les États-Unis, elle passe par tous les pays, et Ortega contrôle tout ça d'une main de fer, un petit peu comme le Mexique l'avait fait aux hautes époques du prix à la fin des années 90 et durant les années 80.
Ce que voulait dire Gilles Bataillon, c'est que donc le Nicaragua accueille des milliers de personnes, puisque le pays est accessible sans visa pour beaucoup de ressortissants de nombreux pays. Il suffit de prendre l'avion pour Managua, la capitale du Nicaragua, et ensuite bien on est accueilli et on va dans les hôtels dont vous nous disiez tout à l'heure que tout un commerce, toute une filière économique a besoin aussi de nouveaux venus pour compenser le départ de dizaines de milliers de Nicaraguayens depuis plusieurs années pour les États-Unis entre autres. Ça veut dire que rien n'est mis en place pour les garder sur place au Nicaragua. Il n'y a pas de politique d'accueil réellement de ces migrants qui arrivent à Managua.
Non, il n'y a aucune politique d'accueil du gouvernement nicaraguayen. Il y a une politique de les faire venir et ensuite d'organiser ou de laisser des passeurs organiser leur transfert vers le Guatemala. Et la première difficulté, c'est de passer la frontière entre le Guatemala et le Mexique, où il y a la garde nationale mexicaine qui filtre les entrées, où ça devient de plus en plus difficile. Mais il n'y a aucune, disons, le Nicaragua est un pays qui expulse de la main-d'œuvre et qui est dans une situation d'ailleurs paradoxale, puisque c'est un pays qui exporte un certain nombre de biens vers les États-Unis et qui a très largement profité de l'accord d'échange entre l'Amérique centrale et les États-Unis, le Canada, le Mexique. Et disons, le volume des exportations du Nicaragua vers les États-Unis a été multiplié par 7 depuis le début du 21e siècle, depuis la signature de cet accord commercial. Donc le Nicaragua exporte ses produits agricoles et là, il y a une nouvelle source de revenus, si j'ose dire, pour la famille Ortega, c'est des accords avec les passeurs qui gagnent leur argent sur le dos des migrants qui essaient de passer aux États-Unis. Mais il n'y a aucune politique en disant, tiens, il y a des gens qui sont là, on va les employer dans l'agriculture ou les industries d'assemblage qui sont dans les zones franches à côté de Managua. Il n'y a pas de politique en ce sens du tout.
De nouveaux immigrés qui permettent aussi à Daniel Ortega de capter des revenus en taxes aéroportuaires. Le Nicaragua bénéficie aussi donc économiquement à plusieurs titres de ces nouveaux venus. Alors, c'est tout l'objet aujourd'hui des discussions, mais des passes d'armes qui ont lieu entre Donald Trump et Ortega. C'est que Donald Trump dit ça suffit, le Nicaragua ne peut plus nous envoyer comme ça des milliers de personnes faire office de raccourci entre guillemets pour tous les migrants qui veulent rejoindre les États-Unis. On va vous renvoyer chez vous au Nicaragua des milliers de Nicaraguayens qui sont arrivés aux États-Unis en plusieurs temps, parce que cette immigration de Nicaraguayens aux États-Unis, Gilles Bataillon, elle s'est faite par couches successives.
Disons, il y a une émigration qui s'est faite le plus légalement possible, c'est-à-dire à l'époque de la guerre civile entre le régime sandiniste et la Contra, il y a des tas de gens qui sont partis en exil officiellement aux États-Unis, qui ont été accueillis comme réfugiés politiques, qui sont devenus des citoyens américains et qui sont citoyens américains depuis la fin des années 80, le début des années 90. Et ensuite, il y a toute une série de gens qui ont commencé à venir au début des années 2000, et toute une série d'entre eux ont bénéficié de lois qui leur ont permis d'acquérir la citoyenneté nord-américaine. Et en plus, les émigrés nicaraguayens étaient considérés comme des gens plus sûrs, et c'était pas des salvadoriens fuyant un régime militaire d'extrême droite, c'était des gens fuyant un régime totalitaire soi-disant à gauche. Donc ils ont plutôt été bien accueillis et ils sont mélangés avec la communauté cubaine à Miami qui leur a fait bon accueil. Et ensuite, il y a eu toute une série de gens illégaux qui sont arrivés à partir du début des années 2000 parce qu'ils étaient attirés par les travaux que personne veut faire aux États-Unis et qu'ils font volontiers.
Cette vague s'est renforcée depuis la violente répression en 2018 des grandes manifestations populaires au Nicaragua, qui donc répression qui a fait 400 morts, plus de 400 morts. Ces migrants nicaraguayens installés aux États-Unis, ils envoient des fonds à leurs familles restées au Nicaragua. On estime que ces fonds représentent 30% du revenu national du pays. Donc Daniel Ortega n'a pas nécessairement intérêt à ce que ces exilés rentrent. Comment cela ajuste sa politique vis-à-vis des États-Unis aujourd'hui ?
Ortega navigue à vue, c'est-à-dire son dessein, ce qui guide sa politique de façon absolue, c'est que lui reste au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie et qu'ensuite lui succède son épouse qu'il a nommée coprésidente et ensuite un de leurs enfants. Et toute la politique est orientée à consolider cette vision du futur du Nicaragua. Et il est prêt à tous les arrangements pourvu que ceci passe. Et disons, il y a des grandes déclarations anti-impérialistes et anti-américaines, et en même temps, il est prêt à tous les arrangements. Et là, une des choses qu'il met dans la balance, c'est quelque chose auquel on a peu fait attention, il y a eu un projet de canal au Nicaragua avec une compagnie chinoise. Le gouvernement nicaraguayen est revenu sur cette concession faite à cette compagnie chinoise qui était basée à Hong Kong, qui était une concession extrêmement favorable. Et là, Ortega a fait des offres à la Chine au début de l'année en disant, voilà, est-ce que vous seriez intéressé à construire un nouveau canal avec nous qui partirait de Bluefield, un port qui est en eau profonde à côté, sur la côte atlantique du Nicaragua, qui passerait par le lac de Managua et qui ressortirait de l'autre côté sur le Pacifique. Et là, je pense que c'est aussi un deal avec les États-Unis, c'est-à-dire en disant si jamais les États-Unis expulsent ces migrants, qu'il y a ces envois, ce qu'on appelle les remessas qui ne viennent plus, eh bien moi, je vais lancer un grand chantier avec les Chinois pour construire un canal, autre le canal de Panama, avec un tirant d'eau plus fort et où les porte-containers chinois pourront passer d'un océan à l'autre.
C'est ce qu'on appelle le canal interocéanique, c'est ça qui est censé être l'alternative au canal de Panama, mais dont les travaux sont pour l'instant ils sont au point mort, les travaux en ce moment, non ?
Alors, il y a des travaux qui avaient, enfin, il y a des terres qui avaient été, les gens avaient été expulsés, ça a été un des premiers mouvements populaires d'opposition à Ortega revenu au pouvoir au début du 21e siècle. Là, les travaux sont gelés et le projet que Ortega essaye de vendre aux Finnois est un projet avec un tracé qui est complètement nouveau par rapport à l'ancien tracé. Je pense qu'une des choses qui compte aussi, c'est que la famille Ortega est propriétaire d'une partie des rives du lac Cocibolca, pas du côté de Managua, mais de l'autre côté, et que Ortega y voit aussi probablement son intérêt.
Merci beaucoup Gilles Bataillon d'avoir été avec nous, sociologue directeur d'études à l'EHESS. Je me tourne une dernière fois vers Kevin Partenay. On entend bien que ce soit le Nicaragua de Daniel Ortega ou le Panama dans un contexte très différent. Le Nicaragua a connu un vrai tournant autoritaire sous Daniel Ortega. Les deux hommes, celui qui est à la tête du Panama depuis un an et Daniel Ortega pour le Nicaragua, essayent de monter le ton vis-à-vis des États-Unis, mais quelle que soit la force qu'ils veulent montrer, dont ils veulent faire la preuve ou la démonstration, ils n'ont pas vraiment les moyens, manifestement, de vraiment se tourner, se faire en sorte que les États-Unis leur tournent le dos. On a peu entendu Daniel Ortega réagir aux menaces de Donald Trump de renvoyer des Nicaraguayens dans leur pays.
Non, effectivement, parce que comme on l'a rappelé à plusieurs reprises, la structure asymétrique est telle qu'on est face à des États qui sont économiquement bien moins importants, qui font tous face à des difficultés institutionnelles. Dans le cas du Nicaragua, évidemment, démocratique, Gilles Bataillon le rappelait très bien. Daniel Ortega, par ailleurs, joue son propre jeu, essaye de défendre ses propres intérêts. Il a fait du pays sa finca, hein, pour le dire très simplement. Et donc voilà, ils essayent de tirer le meilleur profit de ce qu'ils peuvent vis-à-vis de Washington, sans attirer trop les foudres de Washington et en essayant d'être relativement complaisant sur un certain nombre d'aspects. Merci. Question migratoire, question économique.
Merci beaucoup Kevin Partenay et merci à Claire Nevache qui était en direct avec nous depuis Panama City. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Les manifestations se poursuivent, Catherine, en Turquie, après une nouvelle destitution d'un élu pro-kurde.
Des milliers de personnes ont érigé des barricades et allumé des incendies à Van, grande ville à majorité kurde, située dans l'est de la Turquie. Protestation continue depuis la nomination de la nouvelle équipe municipale la semaine dernière, choisie par le ministère de l'Intérieur et par le président Recep Tayyip Erdogan, comme le raconte le journal d'opposition Birgun. Le gouverneur a pris la ville de Van en main, donc ce week-end, après la destitution du maire pro-kurde, feux d'artifice et jets de pierre des manifestants contre la police qui a répliqué, elle, à coups de gaz lacrymogène et de balles en plastique, ajoute le quotidien Cumhuriyet. Plus de 300 personnes ont été arrêtées et c'est la 9e fois qu'un maire du parti pro-kurde DEM, troisième force du Parlement, est suspendu cette année. Il est accusé, en l'occurrence, de terrorisme, note Anadolu Agency, malgré le dialogue en cours avec le mouvement armé kurde du PKK. Et c'est peut-être le signe, pour The Economist, d'une nouvelle vague de répression qui s'abat sur la Turquie. Seyit Aslan, à la tête du Parti du Travail, formation de gauche, a tenu hier à saluer les habitants de Van qui résistent jour et nuit, dit-il, contre le pouvoir. C'est une vidéo d'ailleurs que montre le média turc Evrensel. En Turquie, dit encore l'opposant de gauche, aucune puissance ne peut faire obstacle à la lutte du peuple turc, du peuple kurde et de la classe ouvrière qui lutte pour l'égalité, la paix et la démocratie. Seyit Aslan s'indigne également de l'envoi de la police face aux manifestants, contre les tentatives aussi de briser les grèves en cours dans le pays. Dans le gouvernorat de Gaziantep, par exemple, dans le sud-est de la Turquie, des ouvriers demandent en effet des hausses de salaire, précise le quotidien Evrensel. Intimidation et pression contre les grévistes, notamment dans une usine qui appartient à un député de l'AKP, le parti du président turc Recep Tayyip Erdogan. Le pouvoir s'en prend aussi aux stars de la télévision turque. Les acteurs passent régulièrement jusqu'à 16 heures par jour sur un plateau, mais dans le peu de temps libre dont ils disposent, certains d'entre eux auraient planifié des coups d'État, ironise The Economist. C'est en tout cas ce que semblent penser les procureurs qui ont ordonné l'arrestation des acteurs Halit Ergenç et Riza Kocaoğlu, ainsi que d'Ayşe Barim, une agent de célèbres acteurs réputée dans le monde des séries télévisées turques. Elle a été arrêtée pour tentative de renversement du gouvernement, explique le quotidien conservateur Yeni Şafak et le journal Gazete Oxygène. Ayşe Barim est ciblée pour son implication dans les manifestations du parc Gezi qui avait secoué la Turquie à l'été 2013. Les procureurs turcs passent actuellement au peigne fin les images d'archives, raconte The Economist, pour déterminer quels journalistes ont légitimé ces événements.
Ces arrestations en série pourraient préparer le terrain à une répression plus large,
dont les signes sont déjà là, alerte The Economist. Mardi dernier, la police d'Istanbul a arrêté 10 fonctionnaires municipaux du CHP, le principal parti d'opposition au Parlement. Et puis la semaine précédente, des procureurs avaient demandé plus de 7 ans de prison et une interdiction de faire de la politique contre Ekrem İmamoğlu, le maire CHP d'Istanbul, la capitale commerciale et la plus grande ville de Turquie, rappelle The Economist. L'élu est accusé d'avoir insulté et menacé le procureur général d'Istanbul, indique l'agence de presse officielle turque Anadolu. Ekrem İmamoğlu pourrait bien défier Recep Tayyip Erdogan ou son successeur lors de la prochaine élection présidentielle en Turquie en 2028, souligne The Economist. Et Recep Tayyip Erdogan s'y prépare dès aujourd'hui.
Enfin, Catherine, aux États-Unis, l'administration Trump fait marche arrière.
Le gouvernement tente de réembaucher des employés de la sécurité nucléaire qu'il avait licencié la semaine dernière. Plus de 300 personnes, selon le New York Times. 50 seulement, affirme de son côté le ministère de l'Énergie sur CNN. Mais une chose est sûre, ce revirement illustre, selon le Time Magazine, les coupes aveugles faites dans l'administration fédérale à la demande de Donald Trump et d'Elon Musk. Alors, si certains des employés du ministère de l'Énergie qui ont été licenciés s'occupaient de l'efficacité énergétique, des effets du changement climatique, des questions qui ne sont pas considérées comme prioritaires par l'administration Trump, d'autres s'occupaient de la gestion de vastes sites de déchets nucléaires, de la garantie que les matériaux qui s'y trouvent ne contaminent pas les communautés alentours, explique la BBC. La National Nuclear Security assure également la maintenance, la remise à neuf et la sécurité de plus de 3000 ogives nucléaires aux États-Unis, indique le New York Times. Le licenciement des employés de la semaine dernière fait donc peser des questions sur la sécurité nationale. Au total, près de 10 000 fonctionnaires fédéraux ont été licenciés ces dernières semaines, indique le Washington Post. Et ce chiffre s'ajoute aux 75 000 travailleurs qui ont accepté une offre de la Maison-Blanche de partir volontairement à l'automne prochain, explique la BBC. Aujourd'hui, plus de 60 poursuites judiciaires ont été déposées contre l'administration Trump. Depuis son investiture, la bataille va aussi se poursuivre sur la scène judiciaire, souligne le Washington Post. Si vous avez la moindre question ou remarque sur l'actualité internationale, sur cette revue de presse, une seule adresse pour nous écrire fcrdpi@radiofrance.com.
Merci Catherine.